Retrouver l'eau dans les Alpes de Haute-Provence est un laboratoire mêlant danse et vidéo qui se propose d'explorer l'élément eau sur notre territoire et qui aboutira dans 6 mois à une création collective. Animé par Lorna Lori et Chloé Cielhomme, respectivement chorégraphes en danse buto et vidéaste, c'est une aventure qui se déroule autour de 6 rendez-vous d'avril 2022 à janvier 2023. Il est porté par la compagnie Empreinte en Mouvement et produit par la Boîte à Ressort, en collaboration avec le musée de Salagon à Mannes, avec le soutien du canal de Provence, EDF et la DLVA. Lorna et Chloé, ainsi qu'Adeline, une participante à ce laboratoire, reviennent sur ce premier week-end autour de la source, puis dans un deuxième temps, autour du deuxième week-end, à la rencontre de la Durance.
Alors, retrouver l'eau dans les Alpes de Haute-Provence, c'est la proposition d'un laboratoire de recherche ouvert à 12 participants, qui sont surtout des femmes, et on a aussi un garçon parmi nous, et avec qui on mène une recherche en lien avec le paysage, tout particulièrement sur le thème de la durance, de plus en plus. Et donc, en prise avec ce paysage, d'une part, il y a tout un aspect de rêverie par le corps et avec l'espace. Et d'autre part, il y a aussi le fait qu'on convie différentes personnes dont le métier est en lien avec l'eau à venir nous expliquer certains aspects spécifiques et techniques liés à leur domaine de travail. Tout ça va faire qu'il s'agit d'une recherche à la fois artistique, mais émaillée d'aspects documentaires.
Autour de ces deux week-ends qui ont déjà eu lieu, le premier était autour de la source ou des sources, vous allez nous en dire plus. Quelques mots sur ce premier week-end.
Le premier week-end, comme on voulait commencer par les débuts, on a dit on va commencer par les sources. Donc on a cherché une source qui est proche de Saint-Michel l'Observatoire et on a décidé d'interviewer, de rencontrer un fontanier, un sourcier aussi de la région qui est très généreusement venu et a partagé avec nous un après-midi pour nous raconter son approche, sa démarche pour aller retrouver l'eau. Et donc, ces projets, ça s'appelle Retrouver l'eau, parce qu'à travers de ces projets, on cherche à retrouver une relation avec l'eau, retrouver la façon dont, en tant qu'être humain, on se met en relation, en lien avec cet élément fondamental qui est bien un problème en ce moment dans la planète. Donc, il y a plusieurs aspects, mais on veut se concentrer vraiment dans les 04. Et on a commencé, je reviens à la source, il y a un fragment de cet entretien avec Bernard Lombard, qui va être peut-être transmis dans cette émission aussi, de cette rencontre avec lui et les groupes de participants du projet. Et ainsi qu'après, on était allés danser et filmer dans la source en question.
Ce que je vous propose, c'est qu'on écoute ce son de Bernard.
Halte là, qui va là? Voilà, mais écoutez, je me présente, je m'appelle Bernard, vous êtes en présence d'un sourcier, et je m'intitule plus facilement fontanier. En Provence, la font vieille, comme dans le pays de Mistral, de Daudet, c'est la source en Provence. Donc ici, nous sommes au site de Carluc. Il faut que je vous explique la signification de Carluc, la racine Carl, avec un K, K-A-R-L. Eh bien, ça veut dire la roche. Et vous voyez que tout est fait de rochers. Et puis Luc, qui vient de Lucus, qui est bois. Donc nous avons 3 significations. La roche sacrée, le bois sacré, et bien entendu, le fait que je sois présent ici, c'est l'eau sacrée. Vous avez une source qui a tari, qui a quasiment disparu, que nous allons trouver ensemble. C'est un site qui est connu depuis très longtemps. Son occupation remonte certainement à 2000 ans, c'est-à-dire à l'époque des Romains, des Gaulois et ensuite des Druides, pour avoir été christianisé au 10e et 11e siècle. Et bien avant, puisqu'à proximité, si on suit ce petit torrent, il y a une grotte préhistorique. Voilà l'ancienne source sacrée. Vous voyez ce qu'il en reste? Il n'y a rien, il n'y a pas une goutte d'eau. C'est vrai que nous sommes en période de pleine sécheresse. Et vous voyez la beauté de ce site avec la chapelle que vous voyez ici, ce qu'il en reste avec sa forme pentagonale. Ici, on a dit c'était la nécropole et bien entendu l'hypogée. Ici, l'église Saint-Jean-Baptiste avec la source qu'on va essayer de retrouver. Et ici, la partie druidique, la première église, l'église Saint-Pierre, qui est carrément donc une église rupestre sous la roche. J'étais intéressé par ce site il y a très très longtemps, quand j'étais même gosse, et c'est vrai que j'ai toujours rêvé à cette époque-là de trouver la source druidique. Pourquoi je trouve cette eau comme ça sous terre? En fait, j'appelle ça l'électrofiltration. L'eau court à travers la roche et le crée un champ électrique. Nous la recevons, et je vous l'expliquerai après, par les talons. Le corps fait antenne, et ça, c'est le révélateur. Vous prenez un pigeon voyageur. Il est capable de faire 1000 km Lille-Marseille en une seule journée. Comment s'oriente-t-il? Ce ne sont pas les étoiles. Ce sont, comme les oiseaux migrateurs, les champs magnétiques. Vous savez que le magnétisme, c'est une des grandes règles de l'univers. Alors tout ça pour vous dire pourquoi donc cette relation avec les animaux. Eh bien là, on ne peut pas le voir, mais si vous avez des passages de sangliers ou de chevreuils, systématiquement, ils suivent les veines d'eau. Ils suivent les champs magnétiques. Et donc, nous avons des cristaux de magnétite ici, dans les lobes des yeux, à l'intérieur des coudes, dans la région nucale, la région lombaire, à l'intérieur des genoux, mais surtout dans les talons. Et c'est comme ça que vous allez déterminer ce qui se passe sous vos pieds. En fait, c'est le cerveau qui envoie une impulsion électrique et les baguettes le réagissent. Et ça, c'est complètement dingue. Et le dernier, comment on appelle ça? Volet de mon cours, puisque c'est un cours que je fais pour essayer de montrer que je ne suis pas farfelu, c'est le cerveau. Le cerveau humain, c'est le joyau de l'univers. 100 milliards de neurones, autant qu'il y a d'étoiles dans l'univers, reliés à 10 autres milliards, ce qui nous fait 300 milliards de synapses. Imaginez un petit peu le flot de ce qu'on peut faire avec un cerveau. Sauf, c'est qu'on s'en sert qu'à 10%. En fait, on pourrait tirer davantage parti de notre cerveau et de notre intelligence. On va essayer de trouver le sens de la veine d'eau. Tu demandes où va l'eau, mais tu y penses vraiment. Et tu vas voir, c'est les baguettes qui vont t'indiquer le sens de la veine d'eau. Où va l'eau, où va l'eau? Il faut que tu le dises à ta voix. Et voilà, il le fait du premier coup.
Où va l'eau, où va l'eau, où va l'eau?
Oui.
Où va l'eau, où va l'eau, où va l'eau?
Où va l'eau, 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 où va l'eau.
Ah voilà, bravo. Alors Laurence, elle va vous surprendre, elle va dire d'où vient l'eau. Voilà, je vais en mettre une médaille encore. Vous n'allez plus parler. Soit que vous allez demander où est l'eau, les baguettes vont se croiser. Soit vous allez demander où va l'eau, les baguettes vont venir comme ça. Soit vous allez demander, mais toujours dans votre fort intérieur, d'où vient l'eau. Mais c'est nous qui allons deviner, on va être les médiums.
Et je le dis pas. Hein.
Non, tu le choisis, mais tu essayes de nous tromper. Tu as demandé où allait l'eau. Bravo.
Vous avez vu, j'ai posé toutes les questions dans ma tête.
Bah, il va dans tous les sens.
Mais ça marche alors. Voilà.
Comment je suis venu à pratiquer?
Comment est-ce que ça t'est venu?
Bien, parce que je suis né dans un village qui se trouve pas très loin d'ici. Et donc, à l'époque, en étant gosse, on prenait les arrosoirs pour aller prendre de l'eau à la fontaine. C'était très difficile d'avoir de l'eau. C'était vraiment sec. Il n'y avait pas de source. Il y en avait une, mais elle ne coulait pas très bien. Et donc, je me souviens, gosse, d'avoir porté ses arrosoirs. Après, mon père était distillateur de lavande. Et pour nous payer nos études, il nous fallait qu'on travaille pendant 3 mois de l'année à 40 degrés à l'ombre. Et on était tributaire d'une source qui avait été captée par les Romains. Et on connaissait le débit. En période de sécheresse, il était très bas. Et en période faste, effectivement, on arrivait facilement. Sinon, on était obligé de stocker dans un bassin. Donc, c'est cette idée d'avoir souffert du manque d'eau qui m'a évidemment converti dans la recherche.
Alors, nous venons d'écouter Bernard qui nous a fait découvrir son métier de fontanier, de sourcier, de comment trouver l'eau, la retrouver, la trouver. Vous étiez aussi présente comme participante, Adeline, à ce week-end autour de la source. Peut-être pouvez-vous nous raconter comment vous l'avez vécu, cette danse et cette eau?
Déjà un grand plaisir de participer à ce projet. C'est un magnifique projet.
et puis de se retrouver comme ça dans un collectif où on peut être en lien avec les éléments et dans la danse. Concernant ce qui s'est passé avec Bernard, moi j'ai été très très surprise et touchée parce que j'ai beaucoup entendu parler dans la région, ça fait 16 ans que j'y suis, des sourciers. Et là, pour la première fois, j'avais les baguettes entre mes mains. Et surprise, ça marche. Et ça marche vachement bien et c'est sans équivoque, on peut le dire comme ça. C'est clair, c'est limpide, j'ai envie de dire comme de l'eau de source, comme de l'eau de roche. Et c'est très, très touchant aussi.
Cette rencontre avec Bernard et sa manière de trouver l'eau, ça a été aussi inspirant ensuite pour le moment de danse.
Je voulais dire justement ça, que dans notre programme de travail, partie du projet, c'est que les participantes, les gens qui vont se mettre à faire cette recherche, on puisse comprendre l'eau dans notre corps. Donc c'était pour nous fondamental d'aller retrouver ces personnes qui ont une capacité par moyen de leur corps à aller retrouver l'eau et comprendre ces liens qui pour nous c'est réel et vivant. Et donc ça collait vraiment bien de pouvoir faire ça en début de projet. Bon, mais on part de la base, on passe de comprendre l'eau dans notre corps pour pouvoir la rencontrer aussi dans le paysage et dire finalement c'est la même. C'est un peu ça les débuts de cette aventure.
Concernant la source, donc près de Saint-Michel, l'observatoire secrète, on est tous arrivés là par un petit chemin que je ne connaissais pas, alors que ça fait quand même un paquet d'années que je suis dans la région. Et puis, c'est très émouvant parce que c'est un lieu qui est un peu utérin, qui invite au secret avec la délicatesse de l'eau qui suinte, qui coule, qui est comme première et qui, effectivement, comme le disait Lorna, qui vient en résonance aussi avec notre eau intérieure, corporelle. Et puis, d'être tous ensemble dans ce lieu, il y a, pour moi en tout cas, eu un temps d'imprégnation. Aussi de mise en main des appareils par Chloé, de la caméra, des micros. Enfin voilà, c'était très, très important, en tout cas pour moi, ce temps-là.
Pour ce deuxième week-end, vous êtes allé dans le lit de la Durance, sous le pont de la Brianne, là où la Durance est très visible, toute ouverte, où on voit bien ce lit de la Durance depuis la route. Comment vous avez fait ce choix? Alors bien sûr, c'est autour de l'eau, mais c'est assez particulier aussi comme choix de la Durance.
Oui, la première chose que j'ai envie de dire, c'est que c'était très difficile de trouver un accès à la Durance pour pouvoir accéder au bord de la Durance. C'est pas évident. Ça ne s'est questionné d'autant plus parce qu'on dit pourquoi cette rivière n'est pas ouverte aux êtres humains, aux gens. C'était très difficile et c'était un peu acrobatique, les passages qu'on a offerts aux participants pour arriver jusqu'en bas. Ça fait partie de l'aventure de week-end d'ailleurs avec toutes les équipes et tout descendre. Mais ça nous a questionné par rapport à pourquoi cette rivière ou l'histoire de cette rivière qui a été tellement dangereuse. Les gens avaient peur des crues, de la Durance, de son changement de régime permanent et que l'histoire a fait qu'effectivement après elle a été domptée, comme plusieurs des textes disent, elle a été canalisée, etc., etc. Et d'ailleurs qu'on commence à rechercher, ça va être la suite du projet, pourquoi et comment la Durance a été recanalisée et réordonnée par l'homme pour pouvoir la rendre utile et pouvoir la rendre aussi gérable. Et c'est grâce à ça, d'ailleurs, que cette région est séquée, parce que sinon, peut-être, on aurait tous... c'était pas possible de vivre ici avec... On essaye de pouvoir comprendre surtout ces mouvements. Et pour nous, la première chose, elle était aller et danser et découvrir par les corps et par nos recherches d'images ces lieux-là et ces lieux de la Durance.
Un tout petit truc, c'est que vraiment la Durance est très changeante, c'est extrêmement surprenant. Et d'un jour à l'autre, en revenant, on voyait vraiment que le tissage des petites rigoles d'eau qui traversent les cailloux n'était pas exactement aux mêmes endroits, était beaucoup plus massif déjà dès le lendemain. En tout cas, c'est vraiment l'impression forte qu'on a eue. Et voilà, elle est très très changeante cette Durance.
Vous travaillez aussi sur différents matériaux, en l'occurrence des textes, un texte de Giono, Provence perdue, et aussi une lettre de Madame de Sévigné.
Oui, c'est dans l'histoire et chronique des Provence. C'est surtout des matériels d'archives qu'on a cherché et des matériels qui parlent des différents changements de la Durance au cours des années, depuis le Moyen-Âge jusqu'à maintenant. Donc, dans ce travail d'archives, on a trouvé, par exemple, des extraits, des lettres de Madame de Sévigné à sa fille, où ça parle effectivement des changements abrupts et irrémédiables de la Durance, et aussi des textes un peu plus tardifs dans les années 60 de Jean Giono qui nous ont beaucoup nourris, notamment pour ce deuxième week-end de travail. Beaucoup nourri les danseurs et la création des danseurs dans cet espace-là.
On va écouter ce texte de Madame de Sévigné lu par des participants à ce stage.
C'est peut-être intéressant de dire que ça a été fait sous forme de micro ouvert, qu'on avait laissé un micro à disposition des participants en leur proposant de faire absolument ce qu'ils avaient envie avec. Et donc voilà, cette lecture est extraite des surprises du micro ouvert.
Début, micro ouvert,
micro rivière.
La Durance est naturellement
brusque,
rapide,
violente,
limoneuse,
furieuse,
inconstante,
inapprivoisable
et méchante,
ingéable,
presque partout en tout temps,
dangereuse et d'un fil tant raide et dédaigneuse et revêche que qui ne l'a pratiquée de longtemps
et ne connaît les guets et les détours
n'oserait l'aborder ni s'y hasarder.
Outre tout cela, étant tellement indomptable
et farouche qu'elle ne se laisse manier à sorte de bateau quelconque, de manière que celui qui s'aventurerait de la naviguer
serait réputé hors de son sens et désespéré.
Hors de quelques radeaux
qui ne craignent les tempêtes,
ajoutés à ses incommodités
et rudesses que ses bords sont la plupart inaccostables,
creux et taillés, ou toujours mouvants et prêts à fondre et renverser.
Cette chienne de Durance!
Votre Durance a le diable au corps!
Je hais cette rivière!
La dernière fois que je l'ai vue, elle était hors de son lit, comme une furie délaissée.
Et Adeline, vous êtes toujours participante à ce laboratoire. C'était le deuxième week-end dans le lit de la Durance. Comment vous l'avez perçu, ce premier week-end dans la Durance et ce deuxième week-end du laboratoire ?
Alors, je l'ai perçu bien chaud, déjà. On a tous eu bien chaud. Le soleil était de la partie et qui se réverbérait sur les galets bien blancs. Donc, voilà, c'est déjà une présence de la chaleur. Un côté feu qui cohabitait avec l'eau. J'ai été surprise de découvrir, parce qu'on s'était installé dans un endroit où il y avait qu'un petit filet d'eau, donc c'était plutôt calme, à l'ombre, ça allait bien. Et puis quand dans la proposition de Lorna Chloé, on a formé des petits groupes pour aller explorer différents endroits et puis se mettre en danse. Je me suis rapprochée d'un groupe qui, lui, était là où le courant était un peu plus fort, et là j'ai fait « waouh ! » parce que ça dépotait et ça n'avait plus rien à voir avec ce côté très sec, très feu, 10 mètres avant dans lequel j'étais. Donc c'est des vrais contrastes et de fraîcheur et de puissance, bien que la puissance de l'eau était au moins à la hauteur de la puissance de la chaleur. Dans ces petits groupes qui se sont formés, chacun s'est laissé aussi inspirer dans qu'est-ce que ça va toucher en chacun de nous et comment, après les différentes expérimentations qu'on a eues par l'accompagnement de Lorna en danse buto, qu'est-ce qui vient se révéler. Il s'est avéré qu'on était un des derniers groupes où l'orage est arrivé après, donc c'était la fin du deuxième jour, où on a eu très chaud et on voyait l'orage, les éclairs arriver de loin. Oui, je peux vous assurer que je n'ai jamais vu, perçu ce lit de la Durance de cette manière-là. C'était particulièrement fort.
Du coup, Adeline, moi j'ai très envie de te poser une question. Si l'une des premières questions de ce film avait été « Qu'est-ce que c'est que ce peuple ?» Qu'est-ce que c'est que ce peuple ? Qu'est-ce que tu en dirais, toi ?
Ah, je dirais le peuple premier, celui qui sort de terre. C'est un peu ce qui m'a semblé vivre aussi avec la danse buto. Là où Lorna nous amène, c'est sortir de terre, avoir une première respiration, arriver au monde. Et puis, avant même de se sentir exister, c'est d'arriver au monde. Ouais, je sens ça. Et par la suite, dans le déroulement, de se sentir exister et exister au sein des éléments, de quelque chose de beaucoup plus grand, de très humain, premier peuple, hein, parce qu'on était tous les uns avec les autres, il y avait beaucoup de contacts. Donc la matière corporelle était bel et bien là, et les éléments autour aussi, avec cette puissance-là. C'est très fort.
Il y a un troisième week-end de prévu. Je ne sais pas si vous avez déjà le thème et le lieu, ou si c'est possible de le dire, ou si on le garde secret. Et puis aussi, on peut dire les dates.
La date, 18 et 19 juin. Alors, on donne rendez-vous à tous les participants de cette création collective le 18 et 19 juin prochain. Et cette fois-ci, on sera sur le barrage de Serponçon, qui donc entre dans le thème des grandes œuvres de construction humaine sur la Durance, et qui est une entreprise qui vise à canaliser en fait cette eau folle qui a tant posé de problèmes en fait aux habitants de la région pour pouvoir se déplacer d'une rive à une autre et irriguer leur culture.
C'est-à-dire que la recherche au Serponçon, ça va être autour de la maîtrise, de la recherche de l'homme, de la maîtrise de la nature, et notamment autour de la rivière et de l'eau, et on va venir observer ça des plus proches, pouvoir danser autour de ça, retrouver nos corps autour de ça. L'idée, c'est de passer les week-ends au bord du lac et peut-être de danser la nuit, de danser à l'aube au bord de l'eau et pouvoir venir, je ne sais pas si tu peux raconter ça. Ouais, raconte.
Donc il y aura une rencontre qui est prévue cette fois, sur ce week-end-là, avec des techniciens du barrage hydroélectrique d'EDF, avec qui nous allons confronter notre étrange peuple en construction. Et on va voir un petit peu ce qui se passe dans cette interaction.
C'était « Retrouver l'eau dans les Alpes de Haute-Provence, des sources à la Durance », un laboratoire mêlant danse et vidéo qui se propose d'explorer l'élément eau sur notre territoire, animé par Lorna Lory et Chloé Sialum. Retrouvez cette émission en réécoute sur notre site internet fréquencemistral.com.